Nous accueillons sur ce plateau aujourd'hui Marie Lavigne, née le 28 avril 1949 à La Chute. Ça vous fait rire, Marie. Vous avez fait des études de maîtrise en histoire. On vous doit plusieurs ouvrages depuis une trentaine d'années, notamment l'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles. C'est un ouvrage produit par le collectif Clio. Avec Yolande Pinard, vous avez publié aussi Travailleuses et féministes, les femmes dans la société québécoise, paru chez Boréal en 1983. On vous accueille, c'est parce que vous publiez cette semaine avec Michel Stanton-Jean un ouvrage intitulé Idola Saint-Jean, l'insoumise. C'est un essai sur cette femme très étonnante dont moi j'ai appris à connaître à travers vos écrits. Daniel Turcotte et Pierre-Luc Brisson, est-ce que vous connaissez Idola Saint-Jean? Bon, évidemment, vous êtes historien.
Non, mais de nom, bien sûr, mais comme figure fondamentale, mais qui méritait sans doute sa biographie.
Ben, elle est moins connue que Thérèse Cassegrain, par exemple.
Eh oui, oui.
Ouais. Oui. Ben, mais on va comprendre pourquoi en vous écoutant, Marie.
Bien, dans les faits, c'est que Thérèse Cassegrain, bon, a vécu longtemps.
C'est vrai.
Thérèse Cassegrain a vécu jusque dans les années 70 et elle a été le relais avec les nouvelles générations de féministes des années 70 qui... Et le fil n'a pas été rompu. Donc, on l'a connue alors qu'Idola Saint-Jean est décédée
en 45.
En 45. Ouais. Alors ça, c'est un élément. Mais ce qui arrive, c'est que Idola Saint-Jean est une enfant unique. Père avocat, mais enfant unique, oui. Et elle ne se marie pas, donc pas d'enfant, pas de descendant pour garder des souvenirs.
Puis elle prend
des...
pas le voile, parce qu'une femme qui se marie pas à l'époque, elle est religieuse en général.
Et ça,
souvent,
alors,
en tout cas.
Alors, oui. Elle est, oui, c'est ça. Alors, elle est célibataire, gagne sa vie, même si son père était avocat.
Il va mourir assez jeune aussi, avant d'être responsable
de sa mère. Oui, il meurt assez jeune, et puis
mère.
Ça, c'est un drame assez important dans la vie d'Idola, parce que Idola est une jeune femme qui vraiment trip sur le théâtre.
Bon, elle est née en 1880.
Oui, en 1879,
c'est
plus
ça.
Précisément.
Ah oui, 1879.
En 79, plus précisément. Et elle arrive au moment où c'est un âge d'or du théâtre à Montréal. Mm. C'est une période magnifique, mais généralement, le théâtre en français, ce sont des troupes de tournée qui vont ensuite à New York, qui font le tour de l'Amérique.
Oui.
Et elle veut jouer. Ses parents lui permettent de suivre des cours, financent ses cours, mais le père décède sans laisser le sou. Et là, c'est un peu un choc parce que... t'as pas vraiment les moyens de gagner ta vie à faire du théâtre. Et aussi, c'est de découvrir que ta mère est une incapable juridiquement. Ta mère, qui avait eu de l'argent de famille, finalement, a rien devant elle. Strictement rien. Et il cherche et ne sait pas comment se débrouiller. C'est probablement le premier grand choc de sa vie.
Ouais.
Où tu découvres c'est quoi l'incapacité juridique d'une femme mariée.
C'est intéressant parce que ça va devenir une vraie quête dans sa vie. Elle va beaucoup militer pour les droits des femmes. Là. Racontons un peu sa vie. Continuons. Elle va aller à Paris pour étudier le théâtre.
Elle va étudier...
En 1903.
C'est ça. Elle va à Paris pour étudier. Et dans les faits, c'est qu'elle veut aller chercher une forme de diplôme. Parce que ici, elle a étudié de maître français, comédien français,
oui.
Qui finalement avait décidé de s'installer ici. Et va étudier avec des maîtres de l'Académie française, de la Comédie française. Et ça lui donne, dit-elle, un passeport pour pouvoir enseigner chez les Anglais. Parce que les Anglais, tout le monde, ce qu'on aime, c'est l'accent français de
d'outre-mer,
l'accent français de France.
Ce qu'elle va faire, d'ailleurs, elle va revenir au pays puis elle va se mettre à enseigner à McGill. Elle va enseigner le français à l'Université McGill.
Oui.
Ça, là, elle se trouve un vrai travail. Là.
Oui, et là, elle se retrouve finalement toute sa vie entre deux. Elle commence autour des années 1900 à enseigner au Monument national, qui est un lieu nationaliste. Elle enseigne là jusqu'à quelques semaines avant son décès.
Oui, Daniel,
parce que je veux juste dire, le Monument national, il ne faut jamais oublier qu'avant d'être un théâtre, c'était toute la bâtisse, il y avait des cours qui se donnaient.
Oui.
C'était tout un espèce de mouvement de reconquête de la part des Canadiens français de l'espace culturel.
D'où son nom, Monument national.
Oui, c'est un immense centre culturel. D'ailleurs, vous avez raison, parce qu'au Monument national, c'est là que c'est une pépinière de féministes. C'est aussi là qu'est la première bibliothèque, on en parle ce matin dans Le Devoir, la première bibliothèque de Montréal avec Eva sur ses côtés. Il y a les livres, bibliothèque technique, et les féministes bâtissent la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste qui sont là. Alors, elles croisent Marie-Gérin Lajoie. Elles s'inscrivent...
Elles vont devenir des alliées, en fait.
Oui, elles deviennent travailler très, très étroitement ensemble. Et là. Mais elle se trouve un boulot à McGill où c'est aussi plus payant et elle enseigne à McGill. Mais à McGill, les gens avec qui elle enseigne, C'est loin d'être des cathos. Hein. C'est des gens qui sont très, très proches de l'Alliance française. L'Alliance française est une organisation provenant du consulat français et qui... on engage des professeurs français, mais c'est plein de francs-maçons dans ce coin-là. Ah. Et là, c'est une pensée très, très laïque. Et évidemment, elle rencontre à McGill des féministes comme Carrie Derrick, qui est la première généticienne au Canada, qui est aussi la première femme professeure d'université à temps plein au Canada. Et elle est à cheval toute sa vie entre ces deux milieux et fait une espèce de jonction, mais ce qui va la rendre très, très autonome par rapport à l'Église.
Bien sûr. Puis ce qui va faire en sorte... Bon, la Première Guerre mondiale va éclater en 1914. Il va y avoir une pandémie de grippe espagnole là, dans une ville comme Montréal. Puis en 1918, elle va adopter une petite fille noire née de parents haïtiens qui vont mourir à cause de la grippe. Ça, là, déjà, elle est célibataire. Et elle adopte une enfant d'origine haïtienne dans le Montréal des années de 18. Là.
Oui, c'est ça. Mais c'est qu'elle dirige le
Moi,
temps...
Moi, ça, ça m'a estomaqué quand même.
C'est assez impressionnant. Oui. Mais elle dirige le temps de la grippe espagnole où là, tout est fermé à Montréal. Mm. Tout. Même les éliminatoires de hockey n'ont pas lieu. Là.
C'est tout dire.
Oui. Elle dirige un grand centre pour orienter les médecins, les infirmières vers les endroits qui ont besoin. Et c'est une personne, donc, qui a rencontré quand même les femmes de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et qui est très, très rompue à la philanthropie. Hein. Elle est très, très généreuse, très philanthrope. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la question se pose vraiment pas. Là, tu peux être célibataire, adopter un enfant, parce qu'il n'y a pas de loi d'adoption en tant que telle. Là.
Est-ce que c'est bien vu socialement de faire ça? Est-ce qu'une femme...
Dans la mesure où il y a eu plein de célibataires qui ont pris des enfants de leur sœur, qui était décédée.
Mais là, on parle d'une enfant noire.
Dans le fond, c'est une histoire de solidarité familiale.
Quand même.
Tu prends un enfant qui est seul comme ça. Ouais. Donc...
C'est au début des années 20 qu'elle va commencer vraiment à militer pour le droit de vote. Rappelons qu'au Canada, au fédéral, le droit de vote a été obtenu par les femmes en 18, mais au Québec, ça va prendre encore beaucoup d'années. Là. C'est qu'en 1940 qu'on obtient le droit de vote. Fait que pendant toute cette période-là, elle va vraiment militer pour l'obtention du droit de vote. Qu'est-ce qu'elle va faire exactement?
Oui, c'est ça. Je pense que son premier choc, elle l'a aux élections. Les premières élections où les femmes peuvent voter en 21. Les femmes votent, elle fait des discours dans 26 comtés. Et là, elle dit, les femmes sont bonnes. Donc, puis toutes les provinces canadiennes obtiennent le droit de vote, là, semaine après semaine, partout. Et là, au Québec, soudainement, elles disent, c'est normal, on va avoir le droit de vote demain. Alors, les femmes organisent, elle va voir Gérin Lajoie, on organise un comité provincial pour le suffrage féminin. Elles le cofondent toutes les deux et elles organisent une immense rencontre à Montréal avec Taschereau, le premier ministre Taschereau. 500 personnes qui sont là, elles sont sûres qu'elles vont l'obtenir, le droit de vote. Et M. Taschereau dit, tant que je serai premier ministre, vous aurez pas le droit de vote.
Comment on explique cette résistance-là? J'ai trois historiens devant moi. Là. C'est l'Église qui a fait en sorte, c'est la préséance de l'Église qui a fait en sorte qu'on a mis autant de temps à donner le droit de vote aux femmes, Marie?
On pourrait peut-être faire une espèce de lien. Il y a différents facteurs. Ouais. Peut-être un lien avec ce que monsieur disait tout à l'heure. C'est qu'on est quand même dans... on identifie le féminisme comme étant un mouvement anglo-saxon protestant. Et contraire au code civil aussi, parce qu'on a un code civil qui est basé sur la famille. Alors, si tu défais la famille et t'en fais une série d'individus, c'est la base de ton droit qui s'effondre. Oui. C'est un droit qui est... Et là-dessus, la façon pour le Québec de résister, de d'identifier qu'il a une culture différente et dire j'ai un code civil qui est basé sur la famille, on parle français et on est catholique. Donc, ces trois valeurs-là font en sorte que des femmes autonomes, individus, ça ne fonctionne pas.
Il faut me corriger, mais peut-être il y a eu un projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale de Québec, l'Assemblée législative, jusqu'en 1914, je pense qu'il y avait un député qui parrainait un projet de loi privé sur le droit de vote des femmes qui a été systématiquement battu pendant 15 ans ou 20 ans presque jusqu'à l'obtention.
Ça va prendre 20 ans.
Il faut lire
les
journaux des débats de l'Assemblée nationale de l'époque ou des éditoriaux comme ceux d'Henri Bourassa dans Le Devoir, où justement, on remet le droit de vote des femmes est considéré comme une atteinte au ciment, au lien sacré de la famille pour les catholiques.
Mais corrigez-moi, mais c'est pas juste au Québec. Hein. Je veux dire, les pays habituellement catholiques, sont en retard. La France va avoir le droit de vote en
44-45. Oui. Alors, pourquoi elle est passée un peu sous silence, ce personnage-là? Elle va mourir en 45. Il y a 9 femmes là, qui vont soutenir sa tombe. C'est quelqu'un d'important qui a finalement obtenu, bon, qui a gagné un combat important en 1940. Puis aujourd'hui, on parle très peu d'elle. À votre avis?
Ben, c'est parce qu'elle n'a pas laissé beaucoup de documents. Et essentiellement parce que sa biographie n'avait pas été faite. Et dans les faits, c'était peut-être trop compliqué de faire ça. Il n'y avait pas beaucoup de documents. Donc,
comment ça se fait que vous avez réussi, vous autres?
Ben, et je pense qu'il y a des phénomènes absolument extraordinaires qui s'appellent la numérisation des archives et surtout la numérisation des journaux. Parce qu'elle n'a pas laissé beaucoup d'éléments personnels, mais à partir du moment où les journaux et les revues de l'époque sont numérisés. Là, tu trouves toutes sortes de pistes et à partir de là, tu peux amorcer des nouvelles recherches. Et ça, c'est un élément absolument extraordinaire.
Femme très, très importante à découvrir au travers de cet ouvrage là, qui est lancé cette semaine, Idola Saint-Jean, l'insoumise, que vous avez écrit, cet ouvrage, Marie Lavigne, en collaboration avec Michel Stanton-Jean. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci.